Paul B. Preciado, le corps utopique.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Vous qui nous écoutez dans le monde et surtout sur le continent, peut-être allez-vous être surpris, choqué, dérangé même par le témoignage de notre invité. Et c'est normal, puisque selon ce philosophe, auteur de « Je suis un monstre qui vous parle », nous sommes conditionnés pour vivre et penser de façon genrée et normée. C'est l'histoire d'une femme devenue homme, l'histoire de Béatrice devenue Paul, après injection de testostérone. Mais Paul B. Preciado revendique de n'appartenir à aucun des deux genres, masculin ou féminin. C'est un dissident du genre qui utilise son corps comme table de travail et d'émancipation patriarcale et politique. Un expert de la migration, un hors-la-loi qui défie les frontières. Hier, enfant de l'Espagne franquiste, puis lesbienne à New York, aujourd'hui homme trans, défiant les analyses freudiennes, il rêve d'habiter Uranus, très loin de la Terre. Bienvenue sur la planète d'un philosophe qui souhaite non pas votre bonheur, mais votre liberté. Bonjour Paul B. Preciado.
Bonjour Jasmine.
Qui êtes-vous ?
Vous savez dit plein de choses, hein, mais en réalité, bon, c'était excessif et trop généreux. En réalité, je suis un philosophe. J'essaie de réfléchir au monde qui nous entoure. Et j'essaie aussi de peut-être d'inventer avec les plus grands nombres un monde différent, un monde dans lequel on se serait peut-être, si ce n'est pas débarrassé totalement des rapports des pouvoirs, d'oppression et de violence, en tout cas, qui en aurait pu négocier différemment ensemble ces rapports-là.
En tout cas, bienvenue sur notre petite planète en sol majeur où on parle du lien au sol. On va voyager. Vous qui planez d'ailleurs au-dessus de toutes ces considérations, ça va sans doute vous faire sourire, cette question du sol. Mais permettez qu'on s'arrête sur un petit bout de terre, de votre terre à vous, espagnole, là où Federico Garcia Lorca était chanté par un certain Enrique Morante. Que vous évoque cette poésie chantée, Paul B?
En fait, j'ai adoré quand j'étais enfant la poésie de Garcia Lorca. Et après, ça m'avait beaucoup touché quand les grands chanteurs Enrique Morente avait repris ses poèmes. Encore plus, enfin, ça me touche surtout toute la partie que Garcia Lorca a écrit quand il est parti à New York. Parce que moi aussi, quelques années plus tard, je me suis retrouvé à New York et que j'ai toujours pensé que c'était vraiment dommage et terrible. C'était tragique le fait que Garcia Lorca était rentré en Espagne en pensant que la République et donc un espace de liberté allait s'ouvrir, et que quelques années plus tard, enfin plus particulièrement 6 années plus tard, il a été assassiné par le régime franquiste. Donc voilà, c'est aussi une leçon, celle de Lorca, la leçon de la fuite, de parfois prendre la fuite pour pouvoir survivre et inventer peut-être aussi autre chose ailleurs.
Donde corre el españoles. Franco ha muerto. El hombre de excepción que ante Dios y ante la historia asumió la inmensa responsabilidad del más exigente y sacrificado servicio a España, ha entregado su vida quemada día a día, hora a hora, en el cumplimiento de una misión trascendental.
T como teatro de la infancia.
Yo sé que en estos momentos.
Paul B. Preciado, vous êtes donc né à Burgos, dans cette Espagne franquiste des années 70. Pourquoi souhaitiez-vous entendre cette archive autour de la mort de Franco le 20 novembre 75?
Bon, évidemment, c'est quelque chose qui a totalement marqué ma vie, puisque je suis né dans une ville très catholique, très conservatrice, totalement marquée par cette vie franquiste, et que ce que j'ai vécu étant, quand j'étais enfant, c'était effectivement la rupture de ce régime et les commencements de quelque chose d'autre. Enfin, je frissonne encore quand j'entends ça. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui m'a préparé à être qui allait devenir plus tard. J'ai toujours rêvé de la révolution, de la transformation profonde d'un régime de pouvoir. Je ne me suis jamais contenté d'une espèce de petite réforme des choses. J'ai vraiment, mon rêve, c'est vraiment la révolution totale.
Dès l'âge de 5 ans, vous diriez? Parce que vous aviez 5 ans hein, au moment de sa mort.
Oui, parce qu'en fait, c'est aussi pour ça que j'ai dit que j'ai un appartement sur Uranus. C'est que depuis que j'étais vraiment enfant, mais très petit, je ne me suis jamais senti totalement identifié à la culture qui m'entourait. Je m'identifiais vraiment, mais vraiment quand j'étais très très enfant. Hein. Enfin, c'est-à-dire que les bonsoirs jamais se sont dit en fait qu'est bel enfant. Non, au contraire, ils s'appelaient chez moi pour dire cette fille, puisqu'à l'époque j'étais identifié en tant que fille, ils s'appelaient mes parents pour dire cette fille est terrifiante, il faut faire quelque chose avec, elle est lesbienne ou elle est trop masculine, enfin, ou ça va pas, qu'est-ce que vous faites à la maison avec elle, parce que ça va pas du tout. Donc effectivement, j'étais vraiment un enfant à problème, même si évidemment les régimes franquistes en tant que tels pouvaient sembler très loin de ce qui peut vraiment rentrer dans les cerveaux d'un petit enfant. Non, c'était quelque chose, la violence de ces régimes, la terreur, les silences que j'entendais autour de moi, y compris en fait le fait que dans ma ville, il y avait souvent des gens, des dissidents au régime qui étaient mis à mort en fait, donc vraiment quelque chose, c'était quelque chose qu'on entendait, c'était vraiment terrifiant.
Alors, Paul B. Preciado, vous avez vécu entre les sons d'une nature sauvage du nord de l'Espagne, mais aussi les bruits de moteur du garage de papa. Comment vous décririez quand même, avant que vous ne deveniez cette tête pensante sur tous ces codes qui vous opprimaient, comment vous décririez votre enfance dans cette Espagne ultra-catholique et sans doute à l'image de votre propre famille?
Il y avait un grand contraste, en fait, entre le fait que chez moi, il n'y avait pas de livres. Je ne suis pas né dans une famille de Santelo, loin de là. Mon père avait un garage. Mais en même temps, c'était un espace sensoriellement très riche. Mes sens, mon corps était en explosion d'intensité, puisque c'était vraiment, bon, d'une part, les voitures, puisque mon père adorait ça, évidemment, et qu'il collectionnait aussi des voitures anciennes. Et il y avait aussi l'intensité des odeurs, l'huile, la graisse, tout ce qui était vraiment les moteurs, les bruits. Et d'autre part aussi, parce qu'on allait très souvent en fait à la campagne de là où mes parents venaient, du nord de l'Espagne, en fait très 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 près du Pays Basque. En fait, et là vraiment encore, c'était très très sauvage. Enfin, c'était vraiment comme être au 19e siècle. La maison de ma grand-mère n'avait pas d'eau courante, elle n'avait pas non plus jusqu'à très tard. En fait, on avait l'impression que la maison n'était pas encore électrifiée. C'était vraiment quelque chose de très très sauvage. J'étais entouré par les animaux. Et donc, je pense que ce qui m'a profondément marqué quand j'étais enfant, c'était l'intensité des sensations physiques. Et voilà, donc ça, c'était vraiment mon enfance.
À quel moment la jeune Béatrice, puisque vous parlez d'une espèce d'implosion de sensualité en vous, à quel moment la jeune Béatrice se sent comme enfermée, comme encagée, pour reprendre un de vos termes, dans sa féminité?
En fait, je pense que depuis toujours. Et c'était pas uniquement dans ma féminité, c'était, je pense, je ne comprends pas encore pourquoi. Je pense que ça, c'est quelque chose qui était comme ça pour moi depuis l'enfance. J'ai toujours vu les théâtres, entre guillemets, de la masculinité, de la féminité, aussi chez les autres. C'est-à-dire que j'avais du mal à... Ouais, j'ai percevé, j'étais capable de percevoir, même quand j'étais enfant, hein, comme les gens jouaient la masculinité, la féminité, avec plus ou moins de succès, on va dire, y compris mon père, ma mère, les enfants autour. Et j'avais des mal à participer à ce théâtre-là, puisque je ne me sentais pas une fille, mais je ne me sentais pas immédiatement un garçon non plus. C'est pour ça que, vraiment, par exemple, la compagnie des animaux m'était délicieuse, parce qu'il y avait quelque chose de non-genré dans ces rapports-là. Peut-être aussi, c'est que les mondes dans lesquels je suis né, en Espagne franquiste et catholique, étaient extrêmement genrés. Donc évidemment, il y avait les choses que les filles devaient faire, les choses que les garçons devaient faire. Également, c'était les espaces aussi, puisque par exemple, l'espace de, évidemment, de mon père, les garages, c'était un espace très masculin, alors que pour moi, c'était un espace, enfin, les machines étaient quelque chose que j'ai adoré. Il me semblait que, pourquoi, quel rapport naturel entre la machine et la masculinité, par exemple. Ça, et,
Mais racontez-nous, Paul B., ce jour où, dans votre école de bonnes sœurs, les sœurs servantes réparatrices du Sacré-Cœur de Jésus, racontez-nous ce jour, ça ne s'invente pas, racontez-nous ce jour où la mère Pilar vous demande de dessiner votre future famille.
Oui, c'était quelque chose qu'on faisait souvent à l'école. Et moi, j'ai dessiné, je me suis dessiné moi-même avec une amie de l'époque, en fait, et avec plein d'animaux. Pour moi, c'était vraiment la famille que je souhaitais. Et évidemment, la bonne sœur a trouvé ça véritablement affreux. Et très rapidement, en fait, elle a fait part à mes parents de mon anormalité. Et ce qui me semble étonnant de mon enfance, c'est que je n'étais pas en contact à l'époque, je n'ai pas eu accès, par exemple, à une éducation, bien sûr, enfin, c'est une évidence, je n'ai pas eu accès à une éducation féministe. Et néanmoins, c'était comme si j'étais connecté à une généalogie des résistances du genre et de la sexualité qui était là, qui m'attendait.
Alors justement, les livres comme une porte ouverte sur un monde que vous recherchiez. Donc très tôt, ils sont là comme un refuge pour vous. Plus tard, ils vont devenir sans doute une arme pour vous. Et en 87, donc à 17 ans pour vous, vous découvrez chez un bouquiniste de Madrid « Corps lesbien », un livre traduit en espagnol de Monique Wittig et qui a été mis en onde par la radio en 83. Et ça donne ça.
Commence par le bout de tes doigts. Je mâche les phalanges. Je broie les métacarpes. Les carpes. J'humecte ton poignet. Je désarticule avec beaucoup de délicatesse le cubitus. Je fais pression sur le trochlée. J'arrache. Je détache le biceps de l'humérus. Je le mange. Je me repais de toi, ma très délectable. Il arrive que mes mâchoires claquent. Je t'avale.
Un extrait de Corps lesbien pour un sol majeur et pour vos oreilles à vous, Paul B. Preciado. C'est un livre où... ça vous fait rire, hein, ça vous rappelle des souvenirs.
Ouais, écoutez,
sans doute
ouais,
à ça.
Lu comme
Alors,
ça.
Attendez, c'est... non mais vous allez me dire, mais c'est un livre en tout cas où juste je donne des petites indications où en s'appuyant sur la théorie marxiste, la féministe Monique Wittig dénonce le caractère obligatoire de l'hétérosexualité. Quel effet vous fait ce livre à l'époque, hein, quand vous avez 17 ans et que vous le découvrez?
En réalité, ce que vous avez décrit n'est pas du tout le corps lesbien, mais la pensée straight. Qui est un autre livre de Monique Wittig qui est plus théorique.
Ah.
Ouais. Les corps lesbiens que vous avez lu et que j'ai trouvé quand j'avais 17 ans, c'est un livre de littérature conceptuelle qui est vraiment, c'est un tour de force extraordinaire, y compris dans la littérature française, où Monique Wittig va prendre ses titres, Les corps lesbiens. C'est presque un livre d'anatomie politique, puisqu'en fait, à l'intérieur, il y a quasi une description au millimètre presque d'un corps dissectionné. Et c'est aussi, en fait, sa manière de critiquer la construction que la médecine, la psychologie, la psychiatrie a fait jusqu'à ce moment-là de la sexualité lesbienne.
Mmh. C'est-à-dire que pour vous, il a, dans ce processus qui vous amène à être aujourd'hui cet homme trans qu'on a devant nous, il a fallu d'abord assumer votre désir des femmes, votre homosexualité. Ça a été la première étape pour vous.
Pour moi, le problème, c'est que, par exemple, comme vous dites, il a fallu assumer mon désir des femmes, mon homosexualité. Vous êtes déjà complètement à l'intérieur de ce régime binaire de la différence sexuelle et aussi à l'intérieur... Ouais, et aussi à l'intérieur, quelque part, de cette caractérisation psychopathologique de l'hétérosexualité, l'homosexualité, comme quelque chose, l'homosexualité, qu'il faut assumer. Moi, je n'ai jamais assumé mon désir de femme. J'étais un enfant qui désirait plein de choses, et j'ai immédiatement aimé tout et n'importe quoi, on va dire. Pour moi, c'était, j'aimais les corps qui étaient autour de moi, et je ne pensais pas au tout début, en fait, ah voilà, c'est une fille, c'est un garçon, pas du tout. Pour moi, c'était quelqu'un que j'aimais.
En arrivant à échapper au poids de la morale, justement, comme moi, je n'y arrive pas, par exemple, même aujourd'hui, quoi.
Ouais, non, si vous voulez, c'est pas que vous soyez particulièrement terrifiante, homophobe, ou que vous soyez très ringarde. Non, la question, c'est qu'on vit en tant que société qui travaille avec une épistémologie, un régime de représentation des corps et de la sexualité, qui est un régime binaire, qui pense qu'il y a uniquement deux sexes. Et c'est aussi un régime qui, à partir du 19e siècle, va faire une différence très segmentée entre l'hétérosexualité et l'homosexualité. Tout simplement parce que l'hétérosexualité est une sexualité reproductrice, et que l'homosexualité est pensée justement comme une sexualité non reproductrice et donc qui doit être réprimée. Donc dans cette représentation du corps et de la sexualité, vous voyez en fait, il y a encore des différences très claires entre la masculinité, la féminité, l'hétérosexualité et l'homosexualité. C'est ce régime de représentation-là que moi, en tant que philosophe, je pense, est en train de changer. On est en train de rentrer dans un moment que j'appelle des ruptures épistémologiques. Je comprends que tout ça vous semble normal. Hein. Quand vous parlez de la masculinité, la féminité, l'hétérosexualité, l'homosexualité, vous avez peut-être l'impression d'avoir une idée très claire de quoi vous parlez. Mais par exemple, de la même manière, pendant très longtemps, on a pensé que le soleil tournait autour de la Terre. Eh bien, il a fallu très longtemps pour effectivement arriver à quelque chose qu'on a appelé une rupture épistémologique, c'était la rupture copernicienne, qui nous a fait comprendre en fait que contrairement à ce qu'on imaginait, non, c'est vraiment plutôt la Terre qui tourne autour du Soleil. C'est la même chose avec des évidences toutes bêtes, hein, mais par exemple, on a l'impression que la Terre est plate. Et parmi d'autres...
Vous n'avez pas toujours été un philosophe outillé de concepts, et cette phase-là aussi nous intéresse. Parce que dans votre révolution copernicienne à vous, Paul B. Preciado, vous allez passer du corps lesbien au corps traité par injection de testostérone. On reviendra sans doute sur cette décision. Mais d'abord, vous dites que vous jouez avec la testostérone comme un chaman. Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Ce que j'essaye de faire, si vous voulez, c'est sortir du récit psychiatrique normatif. C'est-à-dire que, en fait, pour la psychiatrie, quelqu'un à qui on a assigné sexe féminin à la naissance et qui décide, par exemple, en fait, de changer de genre et donc s'identifier en tant que garçon, en tant que personne non binaire, est une personne que la psychiatrie va appeler dysphorique du genre. Et donc, on va dire que vous savez qu'une maladie mentale ou psychologique et que la testostérone ou l'estrogène, en cas que vous soyez par exemple une femme trans, va être en fait la thérapie qui va vous soigner. Moi, j'ai essayé de résister à ces récits normatifs puisque moi, je ne me sens pas un dysphorique de genre. Moi, je me sens un dissident du régime de la différence sexuelle. Et qui en fait, ce qui s'est arrivé dans ma vie, tout simplement, c'est vrai, fin des années 90, on a commencé à avoir accès beaucoup plus facilement aux hormones. Puis, avec des amis, on a commencé à tout d'abord, en fait, prendre des micro-doses de testostérone, pas des doses en fait en injection, mais plutôt en testogel. Et donc, on a commencé, si vous voulez, à déjà fabriquer une dissidence du genre dans notre corps. Pas uniquement à travers soit l'écriture, soit les langages, soit la performance, soit la théâtralisation, les vêtements, etc., mais aussi à travers un changement corporel. Et à ce moment-là, je ne me suis pas dit, en fait, bon, je vais devenir un homme, puisque pour moi, la différence sexuelle était quelque chose avec lequel je ne m'identifiais pas. Mais ce que c'est arrivé avec un peu plus de temps, c'est que petit à petit, je décidais que je voulais construire, fabriquer un autre corps que j'appelle un corps utopique ou un corps révolutionnaire dans ses rapports avec la testostérone. Et donc, du coup, je dis que moi, je suis un peu comme un techno-chaman, c'est-à-dire un chaman qui va construire sa corporalité, sa subjectivité en rapport avec la plante, avec ou en rapport avec l'hormone. Mais ça n'est pas quelque chose qui arrive uniquement aux trans, puisqu'en fait, j'imagine qu'il y a, et sur ces plateaux, les gens qui sont en train de nous écouter aujourd'hui, par exemple, beaucoup de femmes qui sont consommatrices de la pilule anticonceptive et qui donc prennent très habituellement une certaine quantité d'estrogène ou de progestérone. Je dirais, aujourd'hui, il n'y a pas de corps qui ne soit pas construit en rapport stratégique, d'une manière ou d'une autre, à un certain nombre de technologies biochimiques. Voilà. Et donc, ce qui change dans le cas de la transsexualité, c'est que nous, on ne peut pas les faire légalement. C'est-à-dire, pour avoir accès légalement à la testostérone, on doit se dire dysphorique du genre, on doit passer par un protocole psychiatrique. Et c'est comme ça qu'éventuellement aussi, on doit faire appel à l'État pour avoir un changement légal des noms et des identités sexuelles et des genres. Et qu'il faut savoir
Paul,
qu'aujourd'hui... Oui, dites-moi. Oui.
Paul B. Preciado, on va ouvrir une seconde votre nouveau livre, qui est un peu un pavé dans la mare des psychanalystes, intitulé « Je suis un monstre qui vous parle », qui est paru chez Grasset. C'est un livre qui est né à la suite d'une prise de parole que vous avez eu à faire en 2019 en France, devant 3500 psychanalystes, avec un discours d'homme trans qui a provoqué un véritable séisme devant ses gardiens de l'école de la cause freudienne.
M comme métamorphose.
Comme le singe Pierre Lerouge s'est exprimé devant les scientifiques, je m'adresse aujourd'hui à vous, académicien de la psychanalyse, depuis ma cage des hommes trans. Moi, corps marqué par les discours médical et juridique comme transsexuel, caractérisé dans la plupart des beaux diagnostics psychanalytiques comme sujet d'une métamorphose impossible, mais situant, selon la plupart de vos théories, au-delà de la nébrose, au bord de la psychose, incapable selon vous de résoudre correctement un complexe d'Œdipe ou ayant succombé à l'envie des pénis. Eh bien, c'est à partir de cette position de malade mental à laquelle vous me renvoyez que je m'adresse à vous en tant que singe humain d'une nouvelle ère. Je suis les monstres qui vous parlent. Le monstre que vous avez construit avec vos discours et vos pratiques cliniques. Je suis le monstre qui s'élève du divan et prend la parole, non pas en tant que patient, mais en tant que citoyen, en tant que votre égal monstrueux.
Merci pour cette lecture de « Je suis un monstre qui vous parle », Paul B. Preciado. Une petite remarque, faudra relire l'histoire du singe appelé Pierre le Rouge et écrite par un certain Franz Kafka. Une première remarque, le complexe d'Œdipe et toutes ces théories freudiennes vous font doucement marrer apparemment.
C'est pas doucement marrer. Moi, je pense que c'est très important. Moi, je suis un grand lecteur de Freud et j'adore Freud en tant que philosophe. Et il peut être aujourd'hui critiqué comme on va critiquer Nietzsche ou comme on va critiquer Husserl. Mais par contre, si on pense qu'on utilise les complexes d'Œdipe comme instrument thérapeutique, clinique, ça me semble beaucoup plus problématique. Bon, les grands problèmes d'Œdipe, c'est qu'en gros, il porte la tâche de Laïus, son père. Ce qu'il a fait de mal, soi-disant, en fait, c'est violer, désirer un garçon. Donc il y a dans l'histoire d'Œdipe, il y a plutôt un problème avec l'homosexualité de son père, on va dire. Et après, par contre, en fait, si vous voulez, on va charger Œdipe lui-même du fait qu'il désire sa mère et donc qu'il va rentrer dans un rapport incestueux avec sa mère. Et je pense que très longtemps, les complexes d'Œdipe a servi aux psychologues et aux psychoanalystes pour être incapables d'écouter et d'entendre les paroles des enfants et des personnes qui ont été abusées sexuellement par leurs parents à l'intérieur de leur famille ou bien même à l'extérieur de leur famille par quelqu'un de plus âgé. Et donc, que souvent, on va interpréter ces paroles des personnes abusées, des personnes violées, on va les interpréter en fait comme une fantaisie ou comme vraiment un désir incestueux qui reflète les complexes d'Œdipe. Moi, je pense que c'est très, très grave et qu'il faut aujourd'hui une dépatriarcalisation de la psychanalyse, une décolonisation de la pensée psychanalytique et des pratiques cliniques psychanalytiques. Et je pense que pour moi, ça, c'est plutôt en fait quelque chose de très positif parce que ça veut dire, ce que je fais dans ce texte, en fait, j'invite les psychanalystes, les psychologues, les psychiatres, en fait, plutôt à rejoindre ce que j'appelle les monstres. Les monstres, pour moi, sont les corps et les sujets qui ont été transformés par l'histoire du capitalisme patriarco-colonial en objet de la violence. Et les monstres, on est beaucoup, hein, parce que c'est les femmes. En fait, ils sont devenus sujets politiques très récemment. Donc, quand je parle de monstres, je parle aussi des femmes, des personnes considérées en tant qu'homosexuelles, des personnes évidemment considérées en tant que trans ou non-binaires, des personnes non-blanches, des personnes violées. Tous ces corps et ces positions de sujets sont aujourd'hui les monstres qui vont peut-être permettre de transformer profondément les discours psychologiques, psychanalytiques et la pratique aussi clinique.
Mais en même temps, quand je relève vos éléments de langage, Paul B. Preciado, techno-chaman, identité utopique, je ne sais pas si vous avez employé le terme d'identité, mais
non,
monstre...
Moi, je parle des
voilà,
corps utopiques.
De corps utopiques, ouais. Voilà. Vous vous présentez devant les psychanalystes comme un monstre à la Frankenstein. Vous fabriquez, j'ai l'impression, en même temps, un peu votre mythe, car si on revient à des choses dans le ressenti, en même temps, lorsque vous vous injectez cette fameuse dose, je crois, de 250 mg de testostérone tous les 21 jours pendant je ne sais combien de temps, lorsque pour la première fois, et encore aujourd'hui, lorsque pour la première fois une voix rauque et rocailleuse sort de votre bouche, vous êtes, je vous cite, vous êtes le premier effrayé.
Bien sûr, mais tout le monde s'est effrayé. Mais c'est un effray ou un effroi et en même temps une joie. C'est les deux choses. Évidemment que traverser cette frontière, c'est un effroi. Que traverser cette frontière produit un tremblement. C'est un tremblement politique, c'est un tremblement corporel, subjectif, mais c'est aussi une grande joie.
Pourquoi reprendre alors cette décision de ne plus être une femme? Même tout ça, il faut le mettre en italique. Hein. Et pourquoi vouloir rejoindre l'enclos, la cage, comme vous dites, que vous dénoncez? Celle des hommes.
Parce que vous savez, en fait, je ne dénonce pas les hommes en tant que tels. Moi, je trouve que c'est la différence sexuelle qui est à mettre en cause. Mais si vous voulez, aujourd'hui, dans une société comme la nôtre, on n'a absolument pas le choix. Si vous voulez avoir des papiers administratifs, un passeport, et donc être considéré en tant que sujet politique, vous devez absolument choisir soit la cage de la masculinité, soit la cage de la féminité.
Alors, mais est-ce que rejoindre l'identité masculine administrativement, c'est rejoindre aussi le clan du patriarcat, à votre corps défendant?
Non, absolument pas, parce que si j'étais devenu en fait homme trans, mais que je gardais en silence ma condition transsexuelle, ma condition trans, mon parcours et ma dissidence politique par rapport au régime de la différence sexuelle, à ce moment-là, on pourrait dire oui, je suis devenu un homme, bien sûr. Mais ce n'est pas le cas, puisque en fait, je parle publiquement de ma dissidence par rapport à ces régimes et que je veux vous dire en fait que de manière quotidienne, mais encore plus cette semaine avec la quantité d'assassinats des femmes trans et la violence constante en fait face aux personnes trans. Donc même si vous pouvez légalement habiter cette fiction politique de la masculinité, votre corps et votre subjectivité, ils vont être l'objet d'énormément de contrôles et d'énormément de violences. Donc, si vous voulez, je ne me sens pas du tout faire partie maintenant du régime du patriarcat que je dénonce.
Je pourrais poser la question autrement. Où est passée Béatrice, Paul?
Mais vous savez, en fait, la vérité, je me sens totalement agressé par vos questions. Je suis désolé de vous dire ça. Ouais. Jasmine, je suis désolé, mais je me sens vraiment agressé par vos questions parce que vous ne s'arrêtez pas. Depuis le début, vous ne s'arrêtez pas. Mais où est passée Béatrice? Mais quelle question.
Pardonnez-moi, je n'ai pas voulu ça.
Non, je comprends, mais ce qui est...
C'est juste pour ne pas rester trop dans le concept.
Ce n'est pas une question de rester dans les concepts, en fait. C'est la même chose que quand vous dites, en fait, bon, vous allez construire votre propre mythologie. Mais ce n'est pas que je construis, moi, ma propre mythologie. Je suis dans une position, en tant que philosophe, dans une position qui me permet de parler de cette objectivation-là et donc de la mettre à distance et de dire et stop, c'est fini. C'est exactement la même chose qui est en train d'arriver aujourd'hui en France contre des personnes qui ont été assignées à la position des Noirs pendant très longtemps dans la continuité d'un régime esclavagiste plus colonial et plus postcolonial, en fait, qui aujourd'hui sort dans la rue pour dire on ne veut plus de la violence policielle, on ne veut plus de la violence d'État. Je suis désolé, je ne vais pas vous dire en fait que c'est parce que vous êtes particulièrement transphobe. Encore une fois, ce que je dis, c'est que les régimes de représentation est tel que vous n'avez pas le choix en réalité.
Sans doute que votre pensée qui démarre d'un constat de très très grande violence nous renvoie à une violence aussi. Il y a quelque chose de très violent sans doute que l'on reçoit en face. Je ne sais pas.
Vous ressentez une violence de ma part ?
Oui, non, pas de votre part, de la part de cette pensée. Moi aussi, vous me déplacez, donc forcément, il y a du jeu entre nous, c'est normal.
Je comprends, Jasmine, je comprends, mais aussi, vous savez pourquoi aussi, mais ça, c'est parce qu'en fait, par exemple, vous êtes journaliste, je ne sais pas depuis combien de temps, mais est-ce qu'en tant que journaliste, vous avez eu accès à une éducation féministe ? Mais voilà, et ça, c'est plus possible. Ça, c'est plus possible. C'est plus possible. C'est sur ça que je travaille et que je milite. Je voudrais, en fait, aujourd'hui, une école anticoloniale et féministe.
Il y a toujours une part de monstre en chacun de nous, en même temps.
Exact.
On est toujours le monstre de l'autre.
Exactement. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement.
Alors, parmi les pensées qui ont été des refuges pour vous, Paul B. Preciado, il y a celle de la philosophe américaine Judith Butler, à qui vous dédiez votre ouvrage d'ailleurs, née en 1956 aux États-Unis, et qui réfléchit sur l'identité, sur le genre, et qui enseigne à Berkeley.
La sexualité est ici particulièrement importante. On pourrait penser qu'appartenir à un genre donné implique une sexualité donnée. And that these two are linked in some way.
On pourrait croire que les deux sont liés.
But of course, we know that they are not linked.
Nous savons pourtant qu'il n'en est rien.
A woman and be heterosexual, bisexual.
On peut tout à fait être femme et être hétérosexuelle, bisexuelle, lesbienne ou sans sexualité.
Oui, c'est possible. C'est finalement peut-être raisonnable. It is a problem for our gender.
La question de genre est problématique. Elle nous inquiète.
Ainsi,
j'ai des amis qui disent
« I would rather die than wear a dress. »
Plutôt mourir que porter une robe.
Some of them are women.
Certains sont des hommes, d'autres des femmes.
One says that one plays with gender. On joue la femme. On joue l'homme.
Je pense que ceci est vrai.
Mais ça ne se limite pas
à une question de jouissance.
Judith Butler pour En sol majeur, une pensée qui a été, vous diriez, une arme pour vous, Paul B. Preciado, dans ce voyage vers la transsexualité.
Bah, je ne dirais pas dans la transsexualité, mais c'est dans mon voyage vers la liberté, je dirais plutôt. En tout cas, c'est vrai que pour moi, cette rencontre avec Judith Butler était définitive et très importante. En fait, je suis parti à étudier aux États-Unis dans les années 90. Et quand je suis arrivé à New York, j'ai étudié au New School for Social Research. Et voilà qu'un jour, en fait, il y a eu Judith Butler qui est venue donner une conférence. Ça m'a semblé absolument extraordinaire et brillant. Et déjà dans les années 90, Judith Butler a commencé à faire une différence très claire entre sexe, genre et sexualité. Et par rapport à ça, justement, Judith Butler, elle va beaucoup travailler avec la pensée de Michel Foucault, mais aussi avec la pensée de Monique Wittig, dont on a parlé tout à l'heure, justement pour montrer que cette stabilité est en réalité un rapport des pouvoirs. Et donc voilà. Mais aujourd'hui, j'ai dédié ce livre à Judith Butler parce qu'en fait, elle vient d'échanger de genre, c'est-à-dire qu'elle a demandé d'être identifiée en tant que personne de genre non binaire, puisqu'en Californie, on peut le faire aujourd'hui. Et pour moi, c'était vraiment aussi d'une grande beauté, parce que c'est aussi une autre génération. Vous savez, en fait, la génération qui est un peu plus âgée que moi, ils n'ont pas eu le même accès que nous aux techniques trans. Nous, on était dans un rapport, je dirais, beaucoup plus artistique, conceptuel, presque festif, en fait, à l'usage des hormones. Et donc, la génération des Judith avait vraiment, c'était encore beaucoup plus dur pour eux, en fait, d'accéder en fait, à ces changements des sexes ou des genres.
Dans votre boîte à outils, il y a eu aussi, et ça peut paraître étonnant encore que, en vous écoutant maintenant, c'est la militante du mouvement des droits civiques aux États-Unis, une certaine Angela Davis.
Je représente la section Chilumumba du Parti communiste. On veut anéantir, assassiner toutes les panthères noires ainsi que l'ensemble de la communauté noire aux États-Unis.
L'influence du racisme dans ce pays est tellement grande que beaucoup de gens ne peuvent pas percevoir ce qui se passe devant leurs propres yeux. J'ai été arrêtée à cause de mes idées politiques, à cause de mes activités politiques. Il y a beaucoup d'autres gens qui sont en prison pour la même raison. Je vais être jugée, j'en suis sûre, par 12 résidents de Santa Clara County, blancs. Si je suis acquittée, ça ne sera pas du tout à cause du système de justice américain. Ce sera à cause du mouvement de masse. Ce sera une victoire du peuple.
Pourquoi Angela Davis, Paul P. Preciado, Angela Davis, qui, vous le savez, a fait de la prison pour ses idées. Est-ce que vous feriez pareil, vous ?
Bah bien sûr, mais de toute façon, forcément qu'elle a été jusqu'à la cage prison, parce qu'en tant que femme noire afro-américaine aux États-Unis, elle a été l'objet, continue à être aujourd'hui encore l'objet, hein, de beaucoup de violences. C'est ça qu'elle a dénoncé pendant tellement de temps. C'est la première qui a été capable de faire les rapports entre l'oppression patriarcale et l'oppression coloniale. La première aussi qui a été capable de faire une analyse de la continuité entre les régimes de l'esclavage et la violence dans les sociétés dites démocratiques, notamment à travers la violence policière et la prison. Donc il me semble que les combats d'Angela Davis est aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Il me semble qu'il faudrait, dans toutes les écoles de France aujourd'hui, lire absolument Angela Davis et notamment son texte, un des textes fondateurs, que d'ailleurs elle a écrit en prison, qui s'appelle « Femme, race, classe ».
Oui, puisqu'on a un pied aux États-Unis, j'aimerais bien votre regard de philosophe sur le mouvement Black Lives Matter.
C'est un mouvement absolument exceptionnel. C'est un mouvement qui, en plus, n'est pas uniquement un mouvement des revendications antiracistes, anticoloniales, mais c'est un mouvement aussi qui est très enrichi aussi par les traditions du féminisme et de la culture queer. Puisque deux de ses fondatrices, en fait, sont deux filles queer. Donc moi, je pense que c'est dans une très complexe et nouvelle alliance de mouvements féministes, antiracistes et queer, et écologiques aussi, d'une écologie politique radicale, qu'on va pouvoir peut-être inventer collectivement la société de demain. Le corps trans est à l'anatomie normative, ce que l'Afrique était à l'Europe. Un territoire à découper, et à distribuer aux plus offrants. Les seins et la peau pour la chirurgie esthétique, le vagin pour la chirurgie d'État, le pénis pour la psychiatrie ou pour les anamorphoses de Lacan. Ce que les discours scientifiques et la technique occidentale considèrent comme les organes sexuels emblématiques de la masculinité et de la féminité, le pénis et le vagin, n'est pas plus réel que les Rwanda ou le Nigeria, que l'Espagne ou l'Italie. Il y a une différence entre une colline verte qui pousse de l'autre côté d'un fleuve et un désert qui s'étend du côté balayé par les vents. Il y a les paysages érotiques d'un corps. Il n'y a pas d'organes sexuels, mais des enclaves coloniales des pouvoirs.
Si je comprends bien, Paul B. Preciado, c'est un passage que j'adore hein, de votre livre « Je suis un monstre qui vous parle ». Il n'y a pas que l'Afrique qui a été colonisée, on l'a bien compris depuis le début de cette conversation, mais vous pensez donc que votre rêve utopique, votre pensée peut s'appliquer à toutes les formes d'injonctions et de catégories qui nous cadenassent, qui nous encagent, riches, pauvres, noirs, blancs, etc.
Oui, mais ce que je pense, c'est que les corps, et particulièrement les corps des femmes, les corps non blancs, les corps des personnes homosexuelles, les corps des enfants, les corps trans, sont des corps qui ont été effectivement colonisés par les pouvoirs. Et cette colonisation a opéré un découpage du corps, en fait, un découpage en organes, à peu près en fait, de la même manière que l'Europe coloniale a découpé l'Afrique. De manière que, par exemple, il y a une grande asymétrie politique entre nos organes. Par exemple, en fait, si demain vous voulez vous faire une chirurgie esthétique du nez, bah, vous décidez que vous avez l'argent pour le faire, vous allez voir un chirurgien et c'est fait. Par contre, en fait, si vous voulez faire une chirurgie, soi-disant, de votre pénis, par exemple, vous voulez ne pas avoir un pénis si vous en avez un, ou bien, en fait, changer la forme de votre vagin, en fait, ou peut-être faire construire, par exemple, mettons un micro-pénis, il va falloir aller chez un psychiatre et à nouveau être considéré en fait en tant que sujet pathologique et que les médecins et l'État vous donnent son accord pour pouvoir mettre à l'œuvre ces changements. Donc ce que ça veut dire de manière très claire, c'est que nos organes ne nous appartiennent pas. Et moi ce que je dirais, c'est que les pénis, les seins, l'utérus, les vagins, la vulve, etc., c'est-à-dire des organes qui ont été considérés en tant que des organes reproducteurs, sont des organes qui appartiennent encore à l'ordre politique de l'État, très souvent aussi de la religion, et aujourd'hui, évidemment, de la nouvelle alliance, si vous voulez, entre la médecine et les marchés.
Riche, pauvre, noir, blanc, parisien, athénien, ça aussi, ça peut être une question en sol majeur pour vous, Paul B. Preciado. Je vous emmène une petite seconde du côté d'une certaine Mélina Mercouri.
"당신에게 돌아갈 집은 어디입니까?
'Pour vous, rentrer à la maison, c'est où?'
Ah, c'est compliqué, hein. Mais pendant très longtemps, je n'ai pas eu de maison de chez moi. Mais c'est vrai que j'ai vécu pendant 3 ans à Athènes, qui est une ville que j'aime plus que tout. Et j'ai pensé même avoir ma maison à Athènes. Mais après, bon, Athènes, c'est un peu loin des endroits où se trouvent en fait mes amis, ma famille, enfin les gens que j'aime. Et finalement, oui, je ne sais pas si je dirais en fait que mon chez-moi, c'est Paris, ou que peut-être encore, mon chez-moi, c'est aussi un endroit utopique, en fait, un endroit à construire.
Et c'est comment d'écrire, comme vous le faites, dans une langue qui n'est pas la vôtre?
Bon, j'écris, vous savez, j'écris en 3 langues, soit anglais, soit espagnol, soit français. Et bon, j'ai arrivé à écrire un peu mal dans toutes ces langues, à parler toutes ces langues avec un accent maintenant. Et peut-être cette étrangeté, le fait d'être un étranger dans toutes les langues, mais combien bien. Mais combien j'aime bien, en fait, cette statue-là. Et j'adore, les français, c'est une langue que j'aime beaucoup, que j'adore. C'est comme une langue, en fait, qui m'a peut-être accueilli aussi, dans laquelle... J'ai pris refuge à un moment donné, philosophique, parmi d'autres. Je me sens un privilégié, en fait, de pouvoir justement aussi traverser ces langues-là.
Vous vivez
sur... Et aussi les catalans.
Ah, et vous vivez d'une certaine manière sur 1001 frontières, comme ça. Donc, je repose un petit peu la question que je disais en préambule. Pourquoi vouloir un appartement sur Uranus, la planète la plus froide du système solaire?
Oui, maintenant, c'était un rêve, en fait. J'ai fait un rêve dans lequel j'avais un appartement dans chaque planète. Et il fallait que je laisse l'appartement sur Uranus parce qu'il était très, très loin. Mais ces rêves sont restés avec moi. Je ne pouvais pas me défaire de cet appartement. Encore une fois, en fait, je me suis dit que par rapport à la lecture habituelle psychologique ou psychoanalytique, en fait, psychanalytique des rêves, qu'il y avait quelque chose d'autre derrière cet appartement sur Uranus. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, en fait, que oui, que l'uranisme, en fait, c'était la première manière que le premier activiste culturel, militant, homosexuel de l'histoire a utilisé. C'était Ulrich, en 1867, en fait, quand il a essayé de décriminaliser l'homosexualité en disant en fait que les homosexuels n'étaient pas des criminels, mais étaient plutôt des suranistes. Et donc cet appartement sur Uranus peut-être aussi parlait très bien de cette généalogie, du fait que je ne suis pas uniquement l'enfant de mes parents en Espagne, mais que je suis aussi peut-être l'enfant, de, par exemple, de Ulrich, et que du coup, en fait, Ulrich m'a laissé en héritage son appartement sur Uranus, sur lequel j'habite maintenant.
Merci beaucoup, Paul B. Preciado. Vous êtes un monstre adorable. Je le dis en pensant à cette figure de Frankenstein qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer. Ce monstre qui se présente au monde avec des fleurs, le monde s'enfuyant malgré tout. On va se quitter avec un de vos choix musicaux. Il s'agit de, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, Anony,
oui.
Avec un morceau intitulé Drone Bomb. Pourquoi elle, pourquoi lui d'ailleurs?
Bah, Anoï, bon, c'est une voix très importante en fait. C'était la voix d'Anthony and the Johnsons. Et Anoï aussi a changé de genre. Elle a une voix qui est au-delà de la différence sexuelle et c'est une voix qui me rassemble, qui me touche profondément.
Merci, Paul B. Drone bomb me. Blow me from the mountains and into the sea. Blow me from the side of the mountain. Blow my head off. Explode my crystal guts. Lay my purple on the grass. I have a glint in my eye. I wanna die. I wanna die. I wanna be the apple of your eye. So drone bomb me. Drone bomb me. Blow me from the mountain to the sea. Blow me from the side of the mountain. Blow my head off. Explode my crystal guts. Lay my purple on the grass. Let me be the first. I'm not so innocent. Let me be the one, the one that you choose from above. En sol majeur, c'est quand vous voulez, en podcast avec Pure Radio, et c'est possible en direct chaque samedi, chaque dimanche à 14h10, temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous donne rendez-vous encore un peu confiné la semaine prochaine avec Romuald Fonquoy. À la semaine prochaine. Tout à l'heure.